Bonjour à toutes et à tous, Fabien du cinéma Le Bourguet, bonne année à vous. Cette semaine du 3 au 9 janvier est donc la première semaine cinéma d'une année qui s'annonce foisonnante et palpitante, à en croire les promesses de films à venir, ne serait-ce que dans ce premier trimestre 2024. On s'en réjouit, et de fait on commence en fanfare avec 7 films à l'affiche, et l'on commence sans plus tarder avec L'Innocence. L'Innocence, c'est le nouveau film de Koreeda Hirokazu, ce cinéaste japonais dont je vous rappelle un petit peu les forfaits dans les années qui ont précédé, depuis Maborosi en 1995, voilà bientôt 30 ans en effet, que Koreeda, comme on dit en France en général, fait des films. Moi je l'avais découvert avec Afterlife, le film date de 98, c'est un film méconnu, absolument magnifique et bouleversant et drôle également. Mais vous êtes nombreuses et nombreux à l'avoir découvert en 2004 avec Nobody Knows et avec ce jeune acteur formidable qui avait remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes. Et puis, par la suite, Still Walking, film magnifique qui appartient, disons, à un genre très japonais pour le coup, auquel on va beaucoup identifier le cinéma de Koreeda Hirokazu, qui est un cinéma de la famille, un peu comme Ozu a pu l'être par le passé, ou Tchekhov au théâtre au siècle précédent, et comment il va porter attention par le détail et d'un œil extrêmement analytique sur ce qui fait la famille et les relations entre chacun et chacune. Still Walking appartient à ce genre-là. D'autres par la suite, Tel Père, Tel Fils, notamment en 2013, et évidemment le film le plus connu, son grand succès, Une affaire de famille, qui remportera en 2018 la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il y a eu également Notre Petite Sœur, que j'aime beaucoup pour ma part, Après la Tempête, tout récemment, l'an dernier, à la même période, Les Bonnes Étoiles, présenté à Cannes également, et L'Innocence, lui, était présenté à Cannes en mai 2023, sous un titre qui semble totalement contradictoire. Le film s'appelait Monster et il a obtenu 2 prix à Cannes cette année, la Queer Palm et le prix du scénario. Et le fait est que ce scénario, particulièrement sophistiqué, est une vraie réussite. Il est signé pour la première fois, je crois, dans la filmographie de Koreeda, il n'est pas signé de lui, mais d'un scénariste chevronné qui s'appelle Yuji Sakamoto. Et le film a effectivement une structure assez complexe en 3 parties qui évoque ainsi le film de Kurosawa, Rashomon, avec une même histoire, une même situation qui était décrite depuis 3 points de vue différents. La structure ici narrative s'avère extrêmement pertinente puisqu'on va, comme pour Rashomon, à chaque fois découvrir de nouveaux aspects depuis un point de vue différent et contredire le jugement qu'on avait porté dans un premier temps sur les protagonistes, et c'est évidemment très intéressant. Il y a une des meilleures actrices japonaises, à mon sens, parmi les rôles principaux de L'Innocence, elle s'appelle Sakura Ando, vous la verrez dans un autre film japonais prochainement qui s'appelle A Man, qui est lui également une réussite. Je veux signaler que ce film, L'Innocence, est aussi, hélas, la dernière musique bande originale, comme on dit, composée par le grand Ryuichi Sakamoto, qui est ce très grand compositeur japonais décédé au printemps dernier, qu'on avait découvert il y a 40 ans avec Furio, le film de Nagisa Oshima avec David Bowie et cet air inoubliable, et qui a composé une multitude de musiques de films depuis lors, comme Le Dernier Empereur, Un Thé au Sahara, Talon Aiguille de Pedro Almodovar par exemple, mais aussi Snake Eyes de Brian De Palma, ou Babel d'Inarritu par exemple, jusqu'à The Revenant aussi, Call Me By Your Name, et donc pour finir L'Innocence de Koreeda Hirokazu, qui est un très beau film sur l'enfance. C'est un grand cinéaste de l'enfance, Koreeda, on le sait. Et ici, les deux protagonistes vers lesquels le récit va converger avec puissance, et notamment dans le rapport qui est le leur à la nature immédiate, aux arbres, aux éléments, vous verrez que ça va donner sur la fin du film des scènes, des séquences très très fortes, et dans leur rapport difficile aux adultes, et notamment à l'institution scolaire. L'Innocence est donc un fort beau film, puissant, idéal pour nous donner confiance dans cette année cinématographique qui débute. C'est le nouveau film de Koreeda Hirokazu, il est évidemment montré en version japonaise. Je le précise aussi que bien souvent les films à réessayer n'ont pas de version française simplement. Donc c'est quasiment, je crois, toujours le film ou presque des films japonais notamment Celui-ci vous est montré au Bourget pour 6 séances cette semaine, entre ce mercredi 3 et le mardi 9 janvier.
それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。
ごめんなさい。
みつお、
どうした？
息子に暴力を振るったんですよね。
申し訳ございませんでした。
子供より親の面倒の方が大変な時代だからね。
こんな学校がいる先生に、こんな先生がいる学校に子供預けられないでしょ。
麦の港か星川よりって子をいじめてるんですよ。
児童のせいにしたら親御さんの怒りに火がつくでしょう。
教育委員会に持ち込まれたら学校全体が処分されることになるんです。
Un autre film, non pas sur l'enfance, sur l'adolescence en l'occurrence, et sur la relation entre un père et sa fille. Le film s'appelle d'ailleurs très judicieusement « La fille de son père » avec humour, et c'est le nouveau film d'Erwan Leduc. Erwan Leduc, souvenez-vous, on vous avait montré son film précédent, qui était aussi son premier long-métrage, il s'appelait « Perdrix ». C'était un film épatant, avec Swan Arlo et Maud Villers. Maud Villers qu'on retrouve ici dans un rôle secondaire. Mais pour les rôles principaux, eh bien, deux acteurs épatants, eux aussi, Nahuel Pérez Biscayart et Céleste Brunkel. Alors Céleste Brunkel, vous la connaissez sans doute pour... on l'avait découvert dans un film qui s'appelait Les Éblouis, c'était en 2019. Dans Fifi, qu'on vous a montré cette année 2023, c'était en juillet. Mais vous la connaissez peut-être davantage encore pour la première saison de En Thérapie, la série de Toledano et Nakash, où elle était absolument formidable. Une toute jeune actrice qu'on retrouve donc ici dans un rôle écrit sur mesure aux côtés de Nahuel Pérez Biscayart, cet acteur de 37 ans, franco-argentin, qu'on a surtout découvert évidemment dans 120 battements par minute de Robin Campillo. C'était en 2017. Le film qui a connu un grand succès, une grande reconnaissance critique, lui a valu quelques prix d'interprétation aussi. Mais on l'avait apprécié par le passé aussi dans Au fond des bois de Benoît Jacquot, et on l'a vu évidemment aussi dans Au revoir là-haut d'Albert Dupontel en cette même année 2017. On le retrouve ici avec plaisir dans un rôle assez inattendu. Faut dire qu'Erwan Leduc a le chic pour confier des rôles, comiques à des acteurs qui ne sont pas forcément reconnus pour ce registre-là. C'était le cas de Swan Arlo, ici Nahuel Pérez Biscayart. Et ce qui est formidable avec Erwan Leduc, c'est qu'il embarque tout le monde dans son aventure et dans sa fantaisie, parce que dans sa réalisation comme dans son écriture, il y a quelque chose d'exaltant vraiment, qui nous embarque nous aussi, spectateurs et spectatrices. Vous verrez qu'il y a une sorte de prologue, de séquence d'ouverture où on recompose quasiment à force de séquences et d'un montage très rapide, quasiment toute une vie en l'espace de quelques minutes, et il n'en faut pas davantage pour qu'on soit totalement en osmose avec ces personnages, un père, sa fille, les années vont passer, qui vont vieillir, grandir ensemble dans une osmose totale, et on les retrouve aujourd'hui, au présent de notre vie et de ce film. Et le film tout de suite a fait mouche à travers une multitude de gags, à la fois très cinématographiques et dans l'écriture aussi des dialogues, et le plaisir que les acteurs et actrices ont à jouer ces situations et ces dialogues-là. Voilà donc cette fantaisie que l'on aime tant chez Erwan Leduc, cette veine burlesque et cette ambition esthétique aussi, qui ringardise une bonne partie de la comédie française actuelle et depuis longtemps, nous emporte pleinement et nous incite à vous recommander ô combien ce deuxième long métrage, plein de poésie, de tendresse, qu'est La fille de son père d'Erwan Leduc, qui est programmé cette semaine, et notamment ce dimanche à 18h30, le nouveau film d'Erwan Leduc, donc La fille de son père.
Rosa !
Ouais ?
Ça fait longtemps que t'es là ?
Ça fait 17 ans. Quel est le résultat ?
Metz.
Metz ?
Les Beaux-Arts de Metz. Si vous pouviez garder un œil sur ma fille. Elle va se retrouver toute seule ici pour la première fois. Loin de moi. Je vous laisse mon téléphone.
Mais t'es pas prêt, papa. Je peux rester encore mon Dieu avec toi à la maison.
Tourne. Comment ça va avec ma fille?
On couche pas ensemble si c'est ça votre angoisse.
Tu sais, on a un truc à l'intérieur. Assez pratique, ça s'appelle un escalier.
C'est pour impressionner Rosa, comme ça elle croit que je suis un aventurier.
Puisque c'est encore les vacances et qu'on avait plutôt l'embarras du choix concernant les films jeunes publics, voici peut-être le meilleur d'ailleurs parmi les blockbusters du film d'animation de cette période de fête, Migration, qui est le nouveau film de Benjamin Renner. Benjamin Renner, on l'aime beaucoup. Rappelez-vous, c'est lui qui avait fait Ernest et Célestine en 2012, je crois. C'est lui qui a fait Le Grand Méchant Renard et autres contes. Les deux films lui ont d'ailleurs valu un César du meilleur film d'animation. Et là, on le retrouve aux États-Unis, chez le studio Illumination Entertainment, et où il est assisté de Guillo Homsi, qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, et on n'en sait pas beaucoup plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est surtout l'œuvre de Benjamin Renner qu'on retrouve ici vraiment pour le meilleur. Vraiment, sa patte est pleinement là. Et toute sa fantaisie également, c'est un régal vraiment pour les yeux. C'est drôle, c'est palpitant, trépidant, et il y a vraiment des séquences magnifiques au cours desquelles on s'attache beaucoup à ces personnages de canards, puisque vous en connaissez sans doute le synopsis, hein, une famille de canards qui migre au moins pour un temps vers la Jamaïque, et ces aventures vont évidemment... se passer un petit peu différemment de ce qu'ils avaient imaginé. Migration, c'est donc le film de Benjamin Renner, hautement recommandable à voir en famille ou pas. Il est recommandé à partir de 5-6 ans et il est programmé tous les jours de ses vacances, pour ce qu'il en reste en tout cas, entre ce mercredi et ce dimanche 7 janvier.
C'est quoi cet endroit?
On est complètement perdu.
Où est votre mère?
C'est pas votre mère.
On voudrait aller en Jamaïque.
Vous en faites pas. Comptez sur la cruche.
Écoutez, la cruche.
Comment tu m'as appelé?
Pardon, j'ai cru que vous vous appelez la cruche.
Oui, donc... la cruche, c'est mon nom. Et
alors... Oui, alors voilà, donc la cruche.
Comment tu m'as appelé?
Désolé, y a que moi qui entends la cruche. Quoi?
C'est pas juste une migration, c'est surtout une aventure. Il vient de se passer quoi?
Je sais pas, mais t'es dans la mouise.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Canard à l'orange.
C'est quoi un canard à l'orange?
C'est toi avec des oranges.
Un autre film d'animation remarquable, qu'il l'est même autrement plus, car c'est un film d'animation comme on espère toujours qu'il s'en fait beaucoup des films d'animation pas destinés au tout jeune public, plutôt aux adolescents, aux adolescentes et aux adultes. Mais en tant que programmateur, on peine toujours à leur trouver une place parce que quels horaires leur donner, quelle attention vous porterez à ce genre qui est quand même très très assimilé au jeune public et parfois on ne se sent pas concerné par ces films. On a passé dans les derniers mois des films remarquables et qui ont peu rencontré le succès parce qu'il y a une sorte de confusion comme ça sur le public auquel ces films est destiné. Là, pas de doute, c'est un public adulte que vise Mars Express, qui est le film de Jérémy Perrin. Moi, je ne connaissais pas Jérémy Perrin. Il a réalisé une série à succès, Last Man. Et ici, il parvient à trouver un équilibre assez idéal entre divertissement et réflexion. Dans un univers futuriste et donc un récit de science-fiction qui s'inspire très largement de Blade Runner et donc de l'auteur de science-fiction Philip K. Dick, où on retrouve toutes les problématiques liées à l'intelligence artificielle, à la relation entre les hommes et les machines dans un futur à peine plus lointain que celui où nous sommes, si j'ose dire. On est à la fois dans un genre de film policier, de film noir, comme Blade Runner peut l'être, et vraiment dans le genre du cyberpunk, auquel Blade Runner appartenait également, et tant d'autres films depuis lors, et tant de romans, évidemment, et de nouvelles, auxquelles Philip K. Dick nous a habitués, mais bien d'autres auteurs que je ne vais pas citer en détail ici. Vous allez voir que, de ce point de vue-là, le film est très réussi, à ceci près, et ce n'est pas d'ailleurs une réserve, que son personnage principal est une héroïne, une femme, Elle s'appelle Aline Ruby et la voix française, parce que c'est une grande réussite que ces voix françaises de Mars Express, la voix française en est Léa Drucker, qu'on aime toutes et tous, je pense. À ses côtés, un compère androïde dont la voix est assurée par Daniel Angelobé. Le personnage s'appelle Carlos Rivera. On retrouve également Mathieu Amalric, Usul, Marthe Keller même, qu'on a plaisir à entendre ici, pour un film animé, donc très réussi dans son animation, même dans son action, parce que c'est aussi un film d'action, et les séquences d'action sont extrêmement réussies. Voilà, ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup d'ingrédients qui nous incitent à vous dire que ce film est une grande réussite, et que vous prendrez peut-être un plaisir que vous ne soupçonnez pas à la fois à cette histoire et à ses qualités d'animation. C'est le film de Jérémy Perrin qui s'appelle donc Mars Express, qui est à recommander à partir de, à mon avis, plutôt 12 ans, mais qui concerne surtout des adultes que vous êtes et qui, je pense, aimeront Mars Express. Il est programmé pour 5 séances cette semaine.
Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau.
Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ?
Ah oui, lui aussi mis à jour.
C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
Mode sobriété activé.
Ouais, désactivation.
Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun ?
Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement.
J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'Android se défend.
Désactivation !
Il enfreint la directive 1.
On a localisé l'Android.
Vous voyez ça ? Il s'est pas laissé faire, le gars.
Hé, venez voir par ici !
Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial ? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot ?
Alors, on en vient aux trois films qui font l'objet de séances spéciales. On s'en réjouit, à commencer par Au fil du temps, qui est le troisième volet de la trilogie de la route de Wim Wenders. Vous savez qu'on a entamé depuis quelques semaines un cycle Wim Wenders. Ça nous a donné l'occasion de vous montrer des films documentaires, notamment le dernier, Anselm, autour d'Anselm Kiefer. On nous a montré aussi Chambre 666, Tokyo Ga ou Pina, pour ce qui est donc du genre documentaire chez Wim Wenders, et on vous a montré également des fictions. Perfect Days, tourné au Japon, auquel vous avez fait un beau succès, et aussi, on a entamé depuis deux semaines cette trilogie de la route, qui rassemble sans doute trois des plus beaux films de Wim Wenders, ceux qui l'ont fait connaître, et Au fil du temps, qui est le troisième volet d'entre eux, est en fait sorti avant, pour ce qui est de la France en tout cas, avant Faux Mouvement, avant Alice dans les villes, à côté desquelles on était passé à l'époque. Alors, ils tournent les trois entre 1973 et 1975. Les films sortent entre 1974 et 1976. Et ce n'est qu'en 1976 qu'on découvre vraiment en France, avec sa sélection à Cannes, l'ampleur de ces trois films et la grande réussite et la grande singularité quand même dans une Allemagne qui est encore celle d'après-guerre, qui ose assez peu se regarder en face, et l'audace du regard que porte Wim Wenders sur son pays, qui est évidemment divisé en deux, la RDA d'un côté, la RFA de l'autre, et amoureux comme il est du cinéma américain, de John Ford, de Fritz Lang, il va s'efforcer à travers ces films-là, et sous l'influence des cinéastes qu'il aime, et de ses paysages, de retrouver quelque chose de ce qu'il aime du cinéma américain dans les paysages allemands des années 70. C'en est assez troublant. Il est pour cela entouré, très bien entouré, de son directeur de la photographie, Robbie Müller. Et il se lance en Europe et en Allemagne dans un genre qui appartient depuis peu typiquement aux États-Unis, c'est-à-dire le road movie. Et les États-Unis, le cinéma américain, à travers le road movie et puis auparavant à travers le western, nous a habitués à ces paysages et à cette immensité esthétique que sont les paysages américains. Ce qui est beau ici, c'est que Wim Wenders réalise avec Alice dans les villes, Faux Mouvement et surtout avec Au fil du temps, un road movie typique le long de la frontière et de la rivière l'Elbe, de la frontière entre la RDA et la RFA. Il s'entoure pour cela de formidables acteurs, à savoir Rüdiger Fockler, qu'on avait vu dans les deux films précédents, et Hans Zischler, qui est un acteur que vous reconnaîtrez peut-être, car on le connaît davantage âgé pour des films plus récents. au fil du temps, donc, précède de peu un des très grands films de Wim Wenders, qui est L'Ami américain. Il est tourné en 1975, durant l'été 75, en quelques semaines, et ça donne lieu, vraiment, avec L'Ami américain sans doute, avec Paris, Texas, à l'un des chefs-d'œuvre de Wim Wenders. Le film dure près de 3 heures. C'est une sorte d'épopée magnifique dans les paysages de l'Allemagne de cette époque. Et on ne saurait trop vous recommander, que vous ayez vu ou non les deux précédents, parce que peut-être vous étiez parti pendant les fêtes, ne manquez pas au fil du temps Im Lauf der Zeit, qui est programmé ce jeudi 4 janvier à 18h. Il le sera à nouveau le mardi 9 janvier à 15h. C'est l'un des plus beaux films de cinéma européen des années 70. Vraiment, une merveille restaurée. Et c'est avec ce film que se clôt la trilogie de La Route de Wim Wenders au cinéma Le Bourget. Mais on espère poursuivre peut-être ponctuellement le cycle Wenders, et notamment avec la reprise prochainement de Paris, Texas, qui est une sorte de conclusion logique à cette trilogie de La Route qu'on vous a proposée pendant les fêtes. Au fil du temps, donc, de Wim Wenders, ce jeudi 4 janvier à 18h.
Genug passiert.
Aber jetzt nicht mehr. Es ist so gut wie tot.
Paul!
Paul, das ist Bruno. Paul, erinnerst du dich noch an die alte BMW von deinem Vater? Der wir hier mal rumgegurkt sind? Ohne Führerschein. Aber gibt's die Karre noch? Hatten wir überhaupt einen Führerschein?
Autre film des années 70, on a montré beaucoup de films des années 70 en cette période, et il y a un compositeur français qui est ô combien attaché au cinéma français des années 70 et aussi à la fin des années 60, c'est François Droubet. On a redécouvert récemment François Droubet, je parle à titre personnel parce que j'ai l'impression d'avoir grandi avec François Droubet. À la fois avec les films, ces films des années 60, 70, qui passaient à la télévision le dimanche soir quand on était enfant, dans les années 80, mais aussi parce que, ayant grandi avec la télévision des années 80, eh bien, j'ai grandi avec Chapi Chapeau, avec Le Commissaire Moulin, dont François Droubet avait composé le générique, la musique des génériques. Mais François Droubet, c'est entre 1965 et 1975, pas loin ou peut-être davantage, d'une centaine de films dont il a composé la musique, dans une créativité intense et foisonnante. Il commence avec Les Grandes Gueules en 1965, film de Robert Enrico, et il termine, hélas, pour lui, pour nous, en 1975, 10 ans après, avec Le Vieux Fusil de Robert Enrico. Robert Enrico, il lui sera particulièrement fidèle, il va composer la musique de la plupart de ses films au cours de cette période. En 75, il a 36 ans et il meurt accidentellement lors d'une plongée sous-marine. C'était un passionné de plongée sous-marine. Il nous laisse donc une multitude de musiques, l'image d'un beau gosse extrêmement charmant, charmeur et un peu hippie sur les bords, qui sera l'un des premiers musiciens, sinon le premier en France, à investir dans un home studio chez lui, un magnétophone 8 pistes qui va lui donner une liberté de création absolument remarquable, qui va beaucoup influencer des compositeurs par la suite jusqu'à aujourd'hui, et des musiques réjouissantes, parce qu'aussi ô combien populaires et mélodiques. Il avait un sens de la mélodie très, très affirmé. Et ce qui est étonnant, c'est que il va donc composer la musique de beaucoup de films je vous le disais, très populaires, qui seront les films du samedi soir au cinéma, les films du dimanche soir à la télévision, des films donc de Enrico, mais aussi beaucoup de José Giovanni, de Julien Duvivier sur la fin de sa carrière, de Jean Herman, de Jean-Pierre Mocky, beaucoup. Vous pouvez voir des films de Mocky en ce moment sur le site d'Arte Replay, et il en a composé la musique, notamment de La Grande Lessive, par exemple. Et il compose la musique, évidemment, aussi de films d'Yves Boisset comme Le Saut de l'Ange ou RAS. Et beaucoup d'acteurs vont revenir dans ces films-là, à des acteurs dont il sera l'ami, Alain Delon notamment, Lino Ventura par exemple, Michel Constantin. C'est un cinéma évidemment très, très viril qu'on voit dans ces années-là, mais au sein de cette masculinité extrêmement présente, et des histoires de gangsters notamment, des histoires de copains, de mecs, il instaure une fantaisie et une légèreté et une mélancolie, une poésie absolument inattendue auxquelles on va beaucoup rattacher ces films en fait. Songeons par exemple à Dernier domicile connu et à cette musique qu'il revient autour de Lino Ventura et de Marlène Jobert pour un film dont on connaît davantage la musique parce que Robbie Williams l'a samplé pour un tube planétaire qui s'appelle Supreme. Dernier domicile connu, on vous le montrera la semaine prochaine, c'est un film de José Giovanni, c'est un film formidable, vraiment, et notamment grâce à cette musique de François de Roubaix. Mais une des plus belles collaborations de François de Roubaix, c'est en 1967, à ses débuts, avec Jean-Pierre Melville, qui est évidemment le plus grand des cinéastes avec lesquels il a collaboré, et de manière très, très rapide, parce qu'il est contacté par Melville un peu au dernier moment de la post-production. François de Roubaix va totalement comprendre le projet de Melville et ce personnage interprété par Delon, où la musique va se substituer au dialogue, puisque le personnage du samouraï en question est très largement muet, et de Roubaix va pleinement investir ce personnage pour le faire parler en musique en quelque sorte, et songeons à la première séquence, à ce long prologue de 15 ou 17 minutes au cours duquel il n'y a pas un seul dialogue et où la musique extrêmement subtil vient se poser sur les séquences absolument fascinantes de Melville avec Delon. Le Samouraï, c'est le film qu'on vous montre ce samedi 6 janvier à 19h. Et le film a été restauré en 4K et ça va être un bonheur de le retrouver sur grand écran. Mais avant cela, on va vous montrer un film documentaire remarquable qui s'appelle François de Roubaix, l'aventurier, qui est réalisé en 2005 pour les 30 ans de la mort de François de Roubaix. Par Jean-Yves Guilleux et Alexandre Moy, le film dure 52 minutes, et à travers des témoignages, à travers des extraits, eh bien, la personnalité, le charme que j'évoquais de François de Roubaix transparaît très largement et nous permet de le rencontrer, de l'entendre et de le voir notamment dans son home studio, de comprendre un petit peu quel a été son parcours d'autodidacte total, et le bonheur et la passion qu'il avait pour la musique et pour le cinéma. Donc ce samedi 6 janvier à 18h, François de Roubaix l'aventurier, c'est le film documentaire par lequel on introduit cette soirée. Et je le précise, cette séance vous est offerte. Il n'y a pas de ticket à acheter, vous pourrez entrer au cinéma gratuitement. Et vous pourrez ou alors prendre d'emblée pour l'ensemble de cette séance composée de deux films, votre ticket évidemment pour Le Samouraï et rester dans la salle parce que les deux films vont s'enchaîner. Donc le film documentaire François de Roubaix l'aventurier à 18h et tout de suite après à 19h Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Sachant que Le Samouraï sera également montré le lendemain à 20h30 et que la semaine suivante on vous présentera le jeudi 11 janvier Dernier domicile connu de José Giovanni pour ce focus en deux temps consacré à l'excellent, le réjouissant François de Roubaix. Et on va composer aussi avec Pierre de Zinzine l'émission spéciale sur François de Roubaix. Vous pourrez l'entendre dans les prochains jours, ou en ce moment même d'ailleurs, sur Zinzine. Allez, je vous dis à bientôt.